Il y a des odeurs qui ont le pouvoir de réchauffer mon âme, même dans les circonstances les plus dramatiques. Ce sont celles des épices. La cannelle, la cardamome, le cumin, le clou de girofle. C'est comme si ces effluves avaient un passe-droit sur mes émotions. Dès que je sens l'odeur d'un riz basmati qui mijote avec ce mélange, tout va un peu mieux. Et vous, quelles sont les odeurs qui vous touchent? Vous, Sylvain Delplanque.
Ah, j'aime beaucoup des odeurs de bois, même l'humus, hein, tout le côté terreux, l'herbe coupée, ce genre de choses, un peu de notes de champignons, ça j'aime beaucoup en fait. En gros, une balade en forêt dans l'automne, c'est pas mal.
Microscience, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microscience, le podcast qui parfume nos petites questions de la vie avec de grandes réponses scientifiques et haptiques. C'est Sylvain Delplanque qui aime se balader en automne en forêt. Il est psychophysiologiste au Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. On va voyager avec lui dans les odeurs et les émotions. Et quand je vous parle d'épices ou de forêt, vous avez forcément des images qui surgissent dans votre esprit, liées à votre expérience et à vos souvenirs. Moi, ça me fascine, cette relation intime que les odeurs entretiennent avec mon cerveau.
Et ça, c'est expliqué d'un point de vue cérébral parce que les zones qui s'occupent de l'olfaction dans le cerveau sont très similaires à celles qui s'occupent de la mémoire et des émotions. Donc elles partagent beaucoup de zones communes. Donc il y a un lien très privilégié par rapport à d'autres sens en fait. On ne se souvient pas plus de choses grâce à l'olfaction qu'en vision ou en audition. Mais par contre, le contenu est beaucoup plus émotionnel. Donc ça a été démontré. Donc ça montre le lien privilégié de l'émotion et de la mémoire et de l'olfaction.
Les odeurs ont donc bien un accès direct à mes émotions. J'ai vraiment l'impression que parfois, elles arrivent à atteindre le plus profond de mon cerveau.
Mais c'est ça. C'est des zones qui sont au centre du cerveau. Alors déjà, la première zone qui s'occupe de ça, qui sont les bulbes olfactifs, elle est juste au-dessus du nez, derrière les yeux, on va dire. Et puis, tout le reste s'enfonce au milieu du cerveau, avec des zones, plein de noms comme cortex piriforme, entorhinal, les amygdales, orbitofrontales, tout ça sont des zones qui sont au centre du cerveau par rapport aux zones visuelles primaires qui sont corticales, donc qui sont au cortex, donc à l'extérieur, qui sont à l'arrière, ou qui sont sur le côté pour l'audition, bref. Mais l'olfaction, la mémoire et les émotions, c'est très au centre du cerveau.
Nos narines sont donc des tunnels menant à nos émotions, nichés au fond de notre cerveau. C'est comme si nos émotions et nos souvenirs pouvaient être ravivés par toutes les molécules odorantes.
Ça, c'est tout un système dont les gens ne parlent jamais en olfaction, mais en fait, on a deux systèmes. On a un système, on va dire, classique, qui est dans le nez, qui sont formés de tous ces petits récepteurs.
Ces récepteurs sont des cellules nerveuses qui réagissent aux molécules odorantes qui nous entourent. Et le deuxième système s'occupe de certaines odeurs spécifiques, comme celle du citron.
Le citron, qui a un côté piquant, frais, la menthe, l'eucalyptus, toutes ces molécules qui ont un petit côté frais dans le nez, c'est pas le système olfactif principal, c'est le système trigéminal, qui nous alerte, c'est un système d'alerte, qui nous dit que potentiellement, il y a quelque chose qui pique, qui pourrait attaquer les muqueuses, etc. Donc il faut faire attention.
Deux systèmes cohabitent. L'un détecte certaines molécules. L'autre détourne une partie de notre nerf trigéminal, celui qui est dédié au toucher, pour renifler.
C'est marrant parce que c'est du toucher chimique. C'est-à-dire que on est à la limite là. C'est-à-dire que c'est des molécules qui vont toucher ces terminaisons nerveuses du nerf qui sert aussi à détecter la douleur dans le visage et le toucher, mais qui sont dédiés à la modalité olfactive, à la détection de molécules. Ça rajoute une couche en plus à l'olfactif.
Les odeurs nous touchent, littéralement.
C'est assez métaphorique, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais globalement, c'est quand même des molécules qui touchent un neurone et qui, en plus, le système trigéminal, c'est le même système que le tactile et dans la bouche également. Parce que quand on mange des piments, c'est lui qui prend feu, hein. c'est le système trigéminal dans les bouches qui s'active parce que la capsaïcine va toucher des récepteurs particuliers qui disent attention, potentiel danger.
Ces goûts et ces odeurs s'apprivoisent et ils laissent des traces dans notre mémoire. Si bien que lorsqu'on sent certaines odeurs, on peut voyager dans le temps.
On sait que dès qu'on sent des odeurs, ça nous rappelle des souvenirs qui sont généralement assez loin dans l'enfance. C'est le fameux phénomène de la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que les odeurs ont cette particularité de nous permettre de nous souvenir de manière très émotionnelle, de souvenirs anciens, des récents également. Mais donc on a tous un peu notre Madeleine où on a vécu des situations quand on était heureux en enfance, en vacances ou que ce soit, mais des situations qui sont émotionnellement marquées comme agréables. Et l'odeur va avoir cette capacité d'immédiatement nous rappeler avec beaucoup de détails la situation, et du coup c'est ça qui réconforte.
Ah, la cannelle, la cardamome, le sorbet à l'abricot aussi, et puis la pastèque, le concombre aussi. Et le curry, un bon curry. Ou une fondue. Un bon café. Ce réconfort ou ce malaise, selon ce que l'on renifle, nous prend au plus profond de notre cerveau. En fait, l'odorat est notre sens le plus archaïque en termes d'évolution. Ce serait notre première façon d'aborder le monde.
Depuis la première cellule du vivant, on a une espèce d'olfaction. L'odorat, c'est des molécules qui viennent s'accrocher sur des récepteurs qui sont des récepteurs sur des cellules. Ça, les bactéries possèdent déjà ça. C'est-à-dire que ce sens-là, le fait que la bactérie va réagir quand une molécule entre en contact avec des récepteurs qu'elle a à sa surface, on pourrait déjà dire qu'elle sent quelque chose. Et elle va réagir en fonction de gradients, en plus, et où elle va aller vers la situation si c'est une molécule plutôt agréable, plutôt utile pour elle, et puis partir si c'est une molécule un peu dangereuse, par exemple. Donc, ce sens de la chémoréception, comme on dit, donc le sens chimique, c'est un sens associé avec les premières cellules. C'est-à-dire, dans la communication entre deux cellules, le seul moyen qu'elles ont d'échanger, a priori, c'est de s'envoyer des molécules. Alors nous, les mécanismes restent les mêmes, c'est-à-dire on sniffe des molécules qui vont dans la muqueuse, qui sont reconnues par des récepteurs. Donc en ce sens-là, c'est archaïque, dans le sens où c'est peut-être le plus vieux sens, avant la détection des photons ou bien des vibrations pour l'audition. Donc oui, c'est archaïque dans ce sens-là.
Et peut-on penser que les odeurs nous mènent par le bout du nez ?
Cette idée que ça nous dépasse, ça nous transporte sans qu'on le veuille, au-delà de notre volonté, etc., moi, j'ai pas l'impression que ça le fasse plus que une musique d'ambiance qu'on aime bien, ou bien quelque chose qui visuel nous plaît bien. Donc, c'est un mythe, ça aussi, que l'odeur pourrait nous emmener ailleurs sans qu'on le veuille, ou nous créer des comportements qu'on n'aurait pas envie d'avoir. C'est comme tout, c'est-à-dire ça va nous influencer, ça va nous changer notre humeur, mais comme le ferait une situation agréable ou désagréable, comme le ferait un contexte très joli ou au contraire un horrible contexte, ou une musique jolie ou agressive, il n'y a pas de démonstration que ça le fait plus en fait.
Ça me rassure, les odeurs n'induisent pas de comportement irrationnel, à part peut-être quand il s'agit d'un gâteau au chocolat dans un four. Nous, les humains, avons donc hérité de cette puissante faculté de sentir et de se laisser toucher par les odeurs. Mais je me demande si nous sommes, parmi les animaux, de bons renifleurs et de bonnes renifleuses.
Bien évidemment, nous ne sommes pas des êtres olfactifs, on est plus visuels dans notre interaction au monde en général. Donc, nos capacités n'ont rien à voir avec celles d'un chien, qui va pouvoir même dire si on a une certaine maladie, ce genre de choses. Enfin, donc, il est clair, on va pas dire qu'on est meilleur, mais il faut un petit peu contrebalancer cette vision qu'on est horrible au niveau olfactif. Alors, c'est pas si vrai. Le temps qu'on passe à table ou à préparer à manger, ça montre une richesse olfactive. Et puis tous nos rituels olfactifs, nos cosmétiques, quand on y fait attention, et ça c'est très important, quand on y fait attention, on s'aperçoit que c'est un sens qu'on utilise énormément dans la vie de tous les jours.
Ah, l'odeur du pain grillé. Par rapport à d'autres animaux, notre odorat est donc un sens très respectable.
On a longtemps cru que l'humain était un très mauvais animal olfactif. D'ailleurs, on appelait ça microsmatique, parce qu'en fait, on avait des tout petits bulbes olfactifs par rapport au reste du cerveau. Et donc ça, on est un peu revenu de cette vision-là, parce qu'en fait, on a des arguments comme on a autant de neurones quasiment qu'une souris, de neurones olfactifs. On a 10 puissance 7 neurones à peu près tous, alors ça fluctue autour de cette valeur, mais bref. Donc, les critères qui disaient au départ, anciens de la science, qui disaient « Ah, mais c'est une toute petite zone par rapport au reste du cerveau, donc on doit pas être très bon » et tout ça. Ça, ça a un peu changé, on a trouvé des molécules pour lesquelles on est plus sensible que la majorité des animaux. Les mercaptans, par exemple, enfin, certains mercaptans, ce sont des molécules qui sont utilisées pour dans le gaz, pour détecter quand il y a une fuite de gaz. Elles sont bien choisies, c'est parce qu'on est ultra sensible à ces molécules, elles sont plus sensibles que d'autres animaux, comme même les chiens, etc.
En fait, l'animal olfactif que nous sommes est capable de sentir plein de molécules différentes.
Il y a des études récentes qui ont fait par simulation, donc en regardant un petit peu le nombre de récepteurs qu'on connaît, et puis en faisant de la chimie combinatoire, puis de la statistique, et puis le nombre auquel ils sont arrivés, c'est quand même plus de 1000 milliards, potentiellement.
1, 2, 3, 4, 5, 12. 1 suivi de 12 zéros, c'est beaucoup.
Voilà. On les a jamais toutes testées, on n'en sait rien fondamentalement, mais ça veut dire que, encore une fois, l'idée qu'on ne pouvait en sentir que quelques-unes, d'un point de vue biologique, avec le nombre de récepteurs et la combinaison possible de tous les récepteurs, parce que bien évidemment, une molécule va activer plusieurs récepteurs, enfin bref, c'est très complexe, potentiellement, et jusqu'à preuve du contraire, on peut sentir en tout cas beaucoup plus que des milliards de molécules.
Nous sommes donc de bons nez collectivement. Mais individuellement, c'est une autre affaire.
Alors, c'est hyper dépendant de la molécule, mais aussi de nous. C'est-à-dire que chaque individu a déjà pas tous les mêmes récepteurs dans le nez. Donc, il y a des molécules qu'on ne sent pas. On appelle ça des anosmies spécifiques. Donc, moi, je suis insensible au musc, par exemple. Je ne sens pas. Ça sent rien pour moi. D'autres, à côté, vont bondir parce que ils sont hyper sensibles au musc et c'est hyper désagréable pour eux. Puis d'autres à côté vont être moyennement sensibles, trouver que c'est floral, un petit peu animal, etc. Donc c'est un peu la loterie, quoi. C'est la génétique, c'est tout ça. Donc on peut pas prédire vraiment, on a des choses moyennes, mais voilà, c'est très dépendant des molécules en tout cas.
Ça veut dire que pas tout le monde adore mes odeurs d'épices? Il n'y a pas d'odeur universellement agréable?
Encore moins même. Parce que l'agréable, en fait, il va être très dépendant de notre vécu. C'est très plastique, hein, demander à une femme enceinte qui aimait bien la fraise et puis du jour au lendemain elle se met à détester. Ça montre bien qu'on n'a pas une préférence innée et qui va perdurer même sur des choses qui pourraient sembler agréables comme un bon café ou bien une fraise. Donc ça va fluctuer, ce qui montre qu'il y a une variabilité, ce qu'on appelle inter-individuelle, entre les individus. Et on trouve pas d'ensemble de molécules qui sont aimées par tout le monde. Voilà. Puis les odeurs, contextuellement, on va dire si on les aime ou pas. C'est-à-dire une odeur qu'on aime dans un certain contexte. Je pense aux odeurs corporelles, même un contexte très intime, être excitante, etc. Si on les sent pas dans le même contexte, on va trouver ça assez dégoûtant. Donc, le côté hédonique, agréable, comme on dit. Donc, tout le volet odeur neutre vers les odeurs qu'on aime. Je mets au défi n'importe qui d'essayer de démontrer qu'il y ait une seule molécule qui soit aimée. Si elle était connue, je pense qu'elle serait vendue par beaucoup d'industries de parfums, comme l'odeur que tout le monde aime. Et du coup, c'est le marché, c'est le Graal, quoi. Mais ça n'existe pas.
Bon, là, je remballe mes épices. Et du côté des trucs qui puent, au moins, on est tous d'accord, non?
Alors ça, c'est une question, je pourrais botter en touche en disant qu'on ne pourra jamais le démontrer, parce qu'il faudrait tester tout le monde. Donc on ne sait pas, mais on va dire qu'il y a des odeurs qui sont plus susceptibles de déclencher chez tout le monde des réactions désagréables. C'est par exemple des odeurs liées à la décomposition de matière organique. Donc elles ont des jolis noms comme la cadavérine, on voit très bien d'où elle vient par exemple, mais il y en a d'autres, le scatol, l'indole, bref. Ce sont des odeurs qui sont liées à la dégradation des protéines, des matières grasses, ce qu'on trouve dans les poubelles, mais on trouve aussi dans nos, voilà, quand on se balade dans la forêt qu'il y a un animal mort qui est en décomposition, on le sent immédiatement, ce genre d'odeur très désagréable. Est-ce qu'elles sont universellement désagréables? On pourra jamais y répondre, mais par contre, je pense que énormément de gens, quelle que soit la culture, seraient d'accord pour dire qu'en premier sniff, quand on sent pour la première fois, c'est pas une odeur qu'on va juger comme agréable, ouais.
Mais ces odeurs-là, celles où on est presque tous d'accord, la cadavérine par exemple, elles nous indiquent un danger.
D'un point de vue adaptatif, oui. Alors ça vient du fait que la chimie de ces molécules qui sont dégradées, c'est une chimie potentiellement dangereuse avec des soufres qui peuvent irriter les voies respiratoires ou bien... Et puis au cours de l'évolution, les êtres ont appris à associer ce genre de perception avec un danger potentiel. Et donc on est un peu programmé à la naissance pour certaines de ces molécules, on va dire, pour réagir à certains types d'odeurs. Parce qu'elles ont une chimie particulière qui, si jamais on sentait ça trop, ou bien si on ingérait ça, on serait susceptible d'avoir une maladie, enfin, ça serait mauvais pour nous.
Mais le plus étonnant, c'est qu'on peut être très sensible à certaines odeurs en particulier.
Donc une ultra-sensibilité à des choses, en plus qui sentent pas bon, l'acide isovalérique par exemple, ce genre de choses. Une odeur qui ressent, qui c'est un peu du pied, quoi. C'est de la chaussure de location de ski qui a une dizaine d'années. Voilà, là vous avez une bonne représentation de ce qu'est l'acide isovalérique. Il y a certaines hyperosmies qui ont été décrites. Ouais, ça existe.
Allez, on s'aère un coup là, on change de chaussure. Ce qui me trouble, c'est que mes odeurs préférées, moi, mes épices, mon café chaud, mon pain grillé, mon parfum, au bout d'un moment, je ne les sens plus.
Mais ça, c'est une fonction, et c'est bien fait. Il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme, on va dire, d'adaptation, ce qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire que il y a plein de molécules qui sont sur les récepteurs, et puis quand ils sont tous pris, voilà, on ne peut plus en faire plus. Ça n'a pas été encore vraiment bien démontré. En tout cas, il est pensé, ce mécanisme. Mais il y a aussi une adaptation au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones du cerveau qui vont activement inhiber la perception. Il y a une odeur, vous la sentez, mais elle signifie rien, il n'y a aucune conséquence de cette odeur. Et bien, le cerveau, il va arrêter, entre guillemets, la perception de ça, pour si jamais il y a une nouvelle odeur qui arrive et qui signale quelque chose, vous soyez capable de la détecter très rapidement. C'est un détecteur de nouveautés, en fait. Et ça, on en fait l'expérience très souvent, c'est-à-dire que quand on change une odeur avec une autre, on la détecte tout de suite, alors qu'on peut ne plus sentir sa propre odeur parce qu'on s'est mis du parfum et c'est toujours la même. L'odeur, ça signale quand même généralement ou un danger lié à de la fumée, ce genre de choses, ou au contraire une source de nourriture qui pourrait être intéressante. Voilà.
Plus j'y pense, plus je découvre des odeurs enfouies au fond de ma mémoire. L'odeur de la pluie sur un sol chaud en été. Toutes ces effluves, tantôt capiteuses parfois, délicates, veloutées, poivrées, fétides, mais jamais fades, constituent autant de morceaux de la grande mosaïque de ma mémoire. Et je me demande comment va évoluer mon odorat en prenant de l'âge.
Mal. C'est dommage, mais c'est comme ça avec l'âge. Tout va mal. Mais il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est ce que les gens vieillissant ont ce qu'on appelle un biais de positivité. C'est-à-dire qu'ils vont être moins sensibles aux odeurs désagréables, aux choses qui sentent mauvais. Et on n'observe pas seulement ça pour les odeurs. C'est en général, les personnes âgées, elles ont plutôt tendance à mieux accepter, enfin, à juger les situations désagréables comme un peu moins désagréables que des jeunes qui seraient en face de la même situation.
Note. Rappeler à ma maman qu'elle est une personne âgée et lui apporter des fleurs, des lys. Il est temps pour Microscience de refermer un à un les flacons de nos souvenirs. Mais évidemment, en cette période de pandémie, difficile de ne pas penser à celles et ceux qui ont perdu l'odorat. Cela ne m'est jamais arrivé, je crois. L'effet sur le moral doit être terrible.
Il y a généralement une baisse d'humeur. mais c'est très dur à savoir si la baisse d'humeur elle est liée à l'olfaction pure ou si c'est lié à tout ce qu'il y avait avec. Ça appauvrit la vie quand même de moins bien sentir. Ce qui est assez rapporté, c'est que les gens qui perdent l'odorat ont une espèce de perte de motivation à certains gestes de la vie, comme c'est super dur de s'alimenter correctement quand on n'a plus aucun odorat. Hein. Donc on a tendance à manger plus gras, plus sucré, enfin tout ça. Donc ça implique aussi des problèmes autres liés à un mauvais choix alimentaire. On n'a plus la satiété sélective. La satiété sélective, c'est le fait de, grâce à l'odeur, de plus pouvoir manger quelque chose alors qu'on reste un petit peu de place pour le dessert. On dit toujours ça, mais c'est un peu ça. Et il y a beaucoup de relations aussi personnelles qui changent, c'est-à-dire que socialement, on ne sait plus si on sent mauvais ou pas, si on n'a plus son propre odorat. Donc on se met à se retirer du monde parce que on a peur de sentir mauvais tout le temps, ce genre de choses. Et puis la relation avec le partenaire ou avec ses enfants, on sent ses enfants. Et là, on ne peut plus le faire, donc la sphère sociale est assez impactée également.
Quelle angoisse! Heureusement, ça peut souvent se soigner.
On n'a pas encore énormément de recul. En tout cas, les otorhinolaryngologistes et autres personnes du domaine conseillent qu'on s'entraîne quand on a perdu l'odorat, qu'on s'entraîne chez soi à sentir ces produits régulièrement pour récupérer cette capacité qui se récupère dans beaucoup de cas, en fait.
Et je vous souhaite, si vous êtes dans cette situation, de redécouvrir votre odeur préférée le plus vite possible. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.
Mon orteil me fait si mal quand je le cogne. Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? On voit la lumière quand j'éteins ma lampe. Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Si vous aussi, vous cherchez de grandes réponses scientifiques à vos questions, envoyez-les-moi sur microscience@rts.ch. Microscience au pluriel et en un seul mot. Et si vous la sentez, partagez ce podcast autour de vous. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou l'application Play RTS. Ils sentent la vanille, l'anis étoilé et le citron vert. Grégoire Moll, bouffé d'inspiration et coproducteur. David Golland, parfumeur sonore et réalisateur, et Jérôme Nussbaum, aux effluves musicales, habillant ce podcast. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique. Bon vent !